pas de panique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique, pardon. J'aime bien.
Confinement intime, le podcast.
Reste chez toi, connard.
Et votre journal de 8 heures vous est présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien.
Bonjour, déjà bientôt une semaine que nous vivons confinés, que nous devons garder nos distances les uns des autres, que nos déplacements sont limités. Une semaine après l'annonce de ces mesures, la police renforce ses contrôles un peu partout. C'est le cas à partir d'aujourd'hui à Bruxelles, mais ailleurs aussi. Ils ne laissent plus rien passer. Nicolas Rondelet a suivi une équipe de police dans la région de Charleroi.
Vous allez où ?
On va travailler au bois.
Ces deux amis veulent aller profiter du beau temps pour aller couper un peu de bois. Un déplacement non essentiel, à deux de surcroît, c'est désormais contrôlé et sanctionné. Alain Ball, chef de la zone de police Germinalt.
Le maître mot, rester chez soi, et donc le reste devient des exceptions.
Mardi 24 mars, il est à peu près 8 heures, et j'ai bien dormi. Il fait très très beau, très très calme. Il y a les oiseaux.
Rien que sur le week-end dernier, 1200 PV ont été dressés. À partir d'aujourd'hui, les pelouses du parc de Forêt sont désormais interdites. Saint-Josse, Kuckelberg et Etterbeek ferment également leurs espaces verts.
C'est que moi, j'ai jamais aimé le mois de mars. Parce que le mois de mars, c'est souvent soit des grands changements dans notre vie personnelle, soit des grands changements au niveau mondial. Et si on fait un peu cette observation, on pourra se rendre compte de ce fait. Bien sûr, il y a plein de choses qui changent dans tout le courant de l'année. Mais le mois de mars, il est vraiment... C'est un mois que je n'aime pas beaucoup à la base. Qui ont marqué, si on fait un peu de recherche, qui ont marqué des grands changements, des grands bousculades au niveau mondial, se passe au mois de mars. D'ailleurs, Albert Einstein est décédé au mois de mars. Hawkins est né au mois de mars. Voilà, des personnes qui ont bousculé l'humanité sont nées au mois de mars. Très étrange. C'est une petite observation très personnelle.
Mardi 24 mars, 13h37, je suis dans la chambre avec Valentin. Premier jour de règle oblige, confinement dans son lit. Et du coup, on en profite pour faire des plans de notre future maison. C'est plutôt chouette.
Nous sommes le 24 mars, mardi, et il est midi 33. C'est notre 10e jour de confinement. Et nous vivons dans la maison de ma belle-sœur, qui a en ce moment seul son fils handicapé. Donc avec Ben et nos 4 filles, on est venu se confiner ici. Les enfants sont en train de jouer dans le jardin avec de la musique. Et nous, on court pour toute l'organisation entre les devoirs des enfants et l'organisation de la maison, les dîners, tout ça. C'est un peu compliqué, mais c'est aussi très joyeux. On ne s'ennuie pas du tout. On apprécie énormément le travail des instituteurs à chaque fois. Parce qu'on se rend compte quand même combien de choses ils apprennent maintenant que c'est à nous de les faire.
J'ai pris le bus, là je viens de quitter le bus, et j'ai remarqué, j'ai beau chercher dans le ciel un avion, J'en vois pas un seul. Et pourtant, j'avoue que j'aime bien cette idée où il y a moins de tracés dans le ciel. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a aucun avion. Je regarde, je cherche, je fais 360 degrés autour de moi, pas un tracé, pas une ligne. J'en ai vu un hier, très tôt le matin. Mais sinon, pas un seul avion. Et ça fait plus de 2 semaines que je n'ai plus entendu le bruit d'un vol d'avion. Si chacun observe un peu cet événement-là, c'est assez particulier. Donc je me dis souvent, la nature, elle me bouscule un peu quand elle estime qu'il y a des êtres humains qui veulent la soutenir et une part d'autres humains qui s'en foutent un peu.
Et puis, on a bu 3 cubis de vin depuis une semaine. On a regardé des films, mais j'adorerais pouvoir aller au cinéma. Je pense qu'à ça. Et là, je cours pour attraper Eva pour pas qu'elle tombe.
On est le mardi 24 mars 2020. Je suis à Saint-Gilles en confinement. Ça va, il y a des moments ça va pas, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas, il y a des moments ça va. Et j'ai tellement de choses à dire que ça vaut pas la peine. Enfin voilà, ça mettra du temps à organiser tout le bordel qui se passe dans la tête d'une personne dans cette situation. Donc il y a quelques jours, j'ai écrit quelque chose que je vais lire. Enfin, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit genre 2 lignes et demie que je vais lire maintenant. L'empereur du 4e étage, nommément Maxime, allait et venait depuis quelques minutes. Un désir persistant du passé ensevelissait ses convictions nouvelles. Donc ça parle vraisemblablement de ma situation actuellement. Et voilà, ça continuera peut-être pas, je ne sais pas, on verra.
Mardi 24 mars, 15h13. Toujours dans la chambre, petit déjeuner.
J'entends un oiseau, j'avais envie de l'enregistrer. Attends, écoute. Il y a un nid là-haut.
Nous sommes le mardi 24 mars. Je me souviens de la date parce que tous les matins... On écrit la date dans un cahier avec ma fille et elle fait un petit dessin tous les jours pour qu'on essaye de pas devenir fou et que les jours ne se ressemblent pas trop tous. Il est 18h48, le rituel cigarette terrasse. Que dire d'aujourd'hui, il a fait beau, mon fils était super énervé. Il y a des jours où on sent qu'il est à la limite de péter les plombs. Moi, ça va. Je viens de faire une super séance de yoga, donc je suis hyper relax. J'enregistre un peu plus tôt parce que je vais encore faire un apéro Skype avec mes 2 petites sœurs qui sont confinées dans un tout petit appart à Paris. Il y a ma chatte grise qui est en train de gratter à la fenêtre. Mon chat noir qui sort du bout des pattes. C'est tranquille. Il n'y a pas d'avion. Des bruits d'enfants. Il fait beau. Il fait encore jour. C'est le printemps, quoi.
Vous pensez être affecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone.
Est-ce que je ne sais pas maintenant. Est-ce que peut-être que je suis porteuse du corona? Oui, parce que il y a exactement 2 semaines, enfin un peu plus, c'était le 8 mars, j'ai vu Santiago et Raquel. Ils sont rentrés le lendemain à Madrid et ils m'ont directement envoyé un message en disant qu'ils avaient de la fièvre. Hier soir, ma sœur me fait savoir qu'ils sont tous les deux corona positifs. Caro commence à dire qu'elle était hyper malade après, grosse fièvre, tout. Ali aussi, les autres aussi. Ou bah, peut-être pas si fort, donc ça ressemble peut-être quand même toujours plus à un rhume, une grippe. Et moi, ma question, donc, à ce moment-là, c'est de savoir si on a eu le corona, est-ce qu'on peut encore le savoir? Est-ce qu'une une fois qu'on l'a eu, on est immunisé? Et est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus attraper le virus et donc on ne peut plus propager? Voilà, mais que de questions. Je crois que je vais appeler le numéro...
-coronavirus.be ou appeler le numéro gratuit 0800 14 689.
Mohamed Lamouri.
Et pendant ce temps-là,
Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en Grèce?
Alors, je pense que c'est similaire, mais tu me diras. En gros, tous les écoles, lieux culturels, lieux publics, sports ont été fermés il y a longtemps maintenant, je pense 3 semaines. Toutes les activités commerciales du type soins à la personne ont été fermées, les magasins ont été fermés, il reste que les magasins de bouffe qui sont ouverts et une liste de métiers de gens qui ont le droit de continuer à travailler et aussi genre quand ces entreprises qui font des trucs qui sont sur une liste que je pourrais pas dire par cœur mais ça a été limité quoi et les gens qui bossent dans les ONG ils peuvent continuer, il faut que tu aies un papier de ton patron en fait pour pouvoir se déplacer. Et t'as des flics dans les rues, il y en a énormément, beaucoup à moto, ils ont tous les lumières bleues en permanence, et c'est principalement ça que tu peux voir dans les rues, et ils arrêtent les gens, apparemment ils mettent des amendes, moi je sors tous les jours, je me suis pas du tout fait contrôler, donc je pense que c'est moins intense que ce qu'on me décrit par exemple à Paris, mais la mise en place est similaire. Il y a énormément de flics qui ont été engagés en plus, ça tombe bien, pas très longtemps avant, et du coup mis sur des motos et là partout. Quelle autre mesure? Il faut pas être à plus de 1 par personne dans les magasins, il faut pas se parler à plus d'un mètre, tu peux pas être plus de 10 personnes dans un même endroit, tu peux seulement sortir si tu fais de la course, tu peux pas marcher. Et ici les gens ont fait plein de blagues, tu vois, en disant oui si je marche le virus, il m'attrape, mais si je cours, il va pas m'attraper, tu vois.
Mais c'est fou, ça. Comment ils font, les gens qui sont pas capables de courir?
Ah non, mais c'est complètement débile. Et ils ont mis une amende. Alors ça a fait une sorte de petit scandale buzz, bon, minuscule. Vraiment, c'est de l'anecdote. Mais ils ont donné une amende à quelqu'un parce qu'il faisait du jogging, mais il transpirait pas. Donc, ils ont considéré qu'il faisait semblant de courir.
Et ça, c'est vraiment suivi par la population. C'est quoi ton impression par rapport à la manière dont c'est reçu, en fait?
C'est énorme. Il y a absolument tout le monde qui le respecte énormément. J'ai vu aucune manifestation au sens propos ou écrits ou même des panneaux, etc. Il y a absolument rien qui est dit contre. Les gens sont très 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 attentifs à rester à l'intérieur. Les petits vieux, ils engueulent les gens qui marchent dans les rues. Genre là, moi où j'habite, il y a plein d'appartements avec balcon. Les personnes que je vois, elles sont souvent assez âgées. Elles sortent sur le balcon pour genre vraiment mais crier sur les personnes qui marchent dans la rue, quoi, pour leur dire de rentrer chez elles. Et dans la rue, il y a vraiment personne. J'ai vu les photos de quartiers où j'ai pas été et moi j'ai marché un peu, il y a vraiment personne, les gens le respectent beaucoup. C'est très très dur, je pense, pour toutes les personnes qui sont pas en situation régulière ou en demande par rapport à leur démarche administrative, ils osent pas du tout sortir parce que les contrôles sont d'autant plus fréquents. Et hier, j'ai parlé avec un ami qui est dans cette situation et lui il dit déjà avant assez difficile de se déplacer sans se faire contrôler, mais que là, ils y arrivaient quasi pas, quoi. Donc, ils sortaient vraiment très, très peu. Et avec des peurs, parce qu'il y a eu, on tournait sur les médias sociaux, bah, des témoignages comme quoi quelqu'un qui était originaire du Pakistan s'est tapé et insulté avec des propos racistes de la part de sikhs dans un endroit où il y avait personne, il n'y avait pas de témoins, et avec un sikh qui surveillait s'il y avait personne qui s'approchait, quoi. Donc se promener en rue ouais, pour les personnes qui sont dans le collimateur des sikhs, c'est très très difficile, hein. Encore plus, je pense. Les témoignages qu'on a, ils sont sur la route. Et à la radio, à la télé, ils n'arrêtent pas de dire « reste à la maison, reste à la maison ».
Et du point de vue des squats et des réseaux qui s'organisaient auparavant, toi, tu as un peu des nouvelles par rapport à ça ?
Ouais. Alors, il y a d'une part un squat qui a été évacué tout de suite au début où ils ont commencé à prendre les mesures, avant même le confinement total. Un squat qui était problématique ici à Athènes parce que c'était dans une université et en fait les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer dans les universités ici en Grèce à cause de leur histoire de la dictature, et donc en fait ils pouvaient pas évacuer ce squat, et donc dès que le virus est arrivé comme un danger pour la population, ils ont vidé le squat pour des raisons sanitaires en disant les gens qui vivent là ont pas accès suffisamment à l'hygiène, donc on se permet d'évacuer le squat et donc de rentrer dans l'université. Il fallait absolument qu'ils aient une espèce d'argument lourd vis-à-vis de la population pour pouvoir faire ça. Et en fait, ils ont envoyé des gens dans des camps où ils sont encore beaucoup moins capables d'avoir accès à l'hygiène, d'être dans des situations où ils vont être encore plus en proximité avec d'autres. Donc, c'était ça finalement qu'ils ont fait avec les personnes qui sont sorties du squat, parce que c'était des gens qui sinon devaient aller habiter dans les camps pour l'administration.
Mais donc c'était un squat de migrants.
Alors c'était un squat de migrants, mais c'est très particulier leur histoire, parce qu'en fait la raison pour laquelle ils se retrouvaient dans cette université, c'est qu'en fait ils étaient dans un autre squat, et il y a eu une grande vague d'évacuation quand le gouvernement actuel a été élu, et en fait tout ce qu'ils ont pu expulser comme bâtiment, ils l'ont fait, mais pour ça, ils l'ont fait dès qu'ils avaient, tu vois, ou bien un bâtiment de l'église, ou bien un bâtiment de l'État, ou bien un propriétaire qui dépose une plainte. Et donc, quasiment, les plus gros squats qui logeaient vraiment plus de 400 personnes, il y en avait 3, 4, 5 qui se sont fait évacuer tous en même temps, avec les personnes dispersées la plupart du temps dans 4, 5 camps différents pour vraiment briser les liens, parce que c'est des squats assez anciens, qui avaient 4-5 ans pour certains. Et donc celui-là, c'était un squat en fait qui était resté plus longtemps que les autres et qui avait été expulsé. Les personnes avaient été prises dans un camion pour les emmener dans un camp au nord d'Athènes. Et en fait, ils avaient interrompu le trajet. Ils avaient obligé le chauffeur à s'arrêter. Ils étaient descendus du bus et ils étaient rentrés à Athènes. En disant, nous, on veut pas aller dans les camps, c'est hors de question, on veut rester à Athènes. Et du coup, il y a eu un groupe de 40 personnes qui se retrouvaient à la rue et ils sont allés dans des locaux d'université où il y a des espaces, quoi. Et ils ont habité là pendant des mois dans des endroits très, très limités aussi en termes d'espace. Il y avait pas de salle de bain, il y avait juste quelques robinets et des toilettes. Et puis, ils dormaient en mode dortoir avec au fur et à mesure du temps, de plus en plus de gens qui arrivaient, parce que du coup, c'était un endroit où c'était possible de se réfugier, d'avoir un toit. Mais là, du coup, c'était une situation critique pour le gouvernement, parce qu'il ne peut pas rentrer dans le bâtiment. Et là, ils ont trouvé la possibilité pour le faire, en fait.
C'est ça. Et du coup, ils sont renvoyés dans les camps.
Ouais, dans les camps et souvent dispersés aussi. Donc, pour les squats qui sont toujours là, ça dépend vraiment par qui ils sont soutenus et dans quelle mesure ils sont en lien avec des groupes pour les soutenir. Très clairement, il y a des situations très différentes. Il y a un groupe en particulier qui soutient un squat dans le quartier d'Exarchia qui, lui, est toujours très soutenu, avec beaucoup de gens qui viennent prendre des nouvelles, aider sur les questions administratives ou matérielles. Mais eux, c'est vraiment un cas à part. Il y a d'autres squats qui sont un peu plus isolés et c'est des maisons en fait qui ont été ouvertes, et au moment de l'ouverture, les gens qui allaient résider là ont reçu de l'aide pour la mise en place, mais souvent il n'y a pas de suivi. Ils sont en autogestion pour des choses qui peuvent être dans les situations où ça va tout à fait suffisantes. Mais là, par exemple, il y en a un où ils n'ont pas pu les expulser parce que le propriétaire, ils le connaissent et il veut pas les expulser. Ils ont coupé l'eau. Donc, ça veut dire qu'ils sont sans eau dans une maison où il y a 50 personnes. Voilà.
Et là, couper l'eau, ils ont fait ça pendant la période de confinement ?
C'est arrivé très peu de temps avant.
Et ça ne leur viendrait pas à l'esprit que ce serait intelligent de leur remettre l'eau dans les conditions actuelles ?
Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant tout un temps, ils mettaient l'eau le matin ou le soir, ils rebranchaient, on coupait, ils rebranchaient, on coupait, parce qu'en fait, l'accès à l'eau, il est dans la rue. Ici, à Athènes, il est devant les bâtiments sur le trottoir. Donc, en fait, tu peux soulever la plaque, rebrancher, mais après, ils venaient recouper, puis ils ont enlevé la pièce qui faisait la connexion. Donc, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent des seaux directement à la sortie d'eau, quoi. Et non, ça leur est pas venu du tout à l'idée que c'était un moment pour rebrancher l'eau. Je connais pas la situation aujourd'hui parce que c'est des nouvelles que j'ai eues la semaine passée. Et eux, c'est des gens qui sont en Grèce depuis assez longtemps, donc il y en a quelques-uns qui parlent la langue grecque, qui peuvent donc faire l'intermédiaire par rapport à tout ce qui est les mesures gouvernementales, à quel hôpital tu dois te rendre en cas de maladie, comment tu dois réagir si quelqu'un est malade, etc. Alors, pour faire le bilan sur d'autres lieux et d'autres groupes, ça a été très difficile les deux premières semaines. Je pense que les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Les militants que moi j'ai vus, ils ont dit qu'ils étaient assez peu nombreux. Maintenant, je pense que comme il y a des choses qui se mettent en place, les gens ressortent un peu. Mais il y a eu un gros, gros moment où juste plus rien n'a bougé. Il y a eu un gros moment d'attente. Il y avait quelques personnes, évidemment, qui tout de suite se sont dit « Ok, ça va être la merde, en fait, pour nécessairement la bouffe et le paiement des loyers pour plein de gens. Donc, il faut tout de suite commencer à s'organiser, au moins pour pouvoir faire des repas pour les personnes qui sont à la rue et certainement plein de gens qui ont perdu leur boulot, quoi. Donc là, il y a quelques groupes par quartier qui ont commencé à faire des collectes et des repas. Mais ça reste des assez petites quantités de repas. Il n'y a pas de cuisine, en fait. Il n'y a pas la structure logistique. Donc, ce qu'ils font pour le moment, c'est des sandwichs et ils font des livraisons par scooter avec un numéro d'appel. Et ils déposent des flyers dans les immeubles. Donc, c'est par quartier. La personne qui dit « Moi, j'habite dans tel quartier, je vais mettre des flyers dans tous les immeubles. » Et c'est son numéro à lui, du coup, qui est sur le flyer. Et les gens appellent pour dire, voilà, moi, j'ai besoin d'un repas. Et donc, lui, il fait le transport de sandwich. Du coup, c'est pas vraiment des repas, mais voilà. Donc ça a été mis en place dans quelques quartiers. Il y a eu pas mal de groupes d'entraide qui se sont aussi montés pour récupérer tout ce qui serait savon et distribuer aussi, voilà, le matériel d'hygiène. Mais bon, à part le savon, il n'y a pas grand-chose de disponible ici, donc... C'était principalement ça. Il y a pas mal de groupes aussi qui s'organisent pour apporter ce matériel-là et même de la nourriture dans les camps, parce qu'il y a énormément de camps qui sont là en train de dire qu'ils, voilà, ils ont rien pour l'hygiène et la bouffe est très limitée, voire non comestible.
Quand tu dis des camps, c'est des camps improvisés par les personnes eux-mêmes ou c'est des camps de l'État ?
C'est des camps de l'État qui sont proches d'Athènes, ceux dont je connais les collectes qui se font. Avant, il y avait des groupes qui allaient, tu vois, donner des vivres et des produits d'hygiène. Par exemple, il y a un camp pour femmes seules qui se trouve à proximité d'Athènes et tout ça était donné via les proches qui allaient en visite, en fait.
Parce que l'État n'assure pas la nourriture pour les personnes qui sont dans les camps.
Alors si, en minimum. Et donc là, toutes les personnes qui apportaient, tu veux, tout ce qui était donné en plus, elles ont plus accès, en fait. Il n'y a plus de visite.
Mais parce que, juste encore une précision, hors période de confinement, c'est des camps fermés ou des camps ouverts ?
Alors, ce camp-là, le camp des femmes, c'est pas un camp fermé, non. La période maintenant du corona a complètement fermé. Plus personne ne peut sortir.
Ah ouais, d'accord. Ils ne peuvent plus sortir, d'accord. Et plus personne ne rentre non plus.
Ouais. Voilà. Et donc, pour pouvoir rentrer et apporter, il faut déjà avoir ce statut de ONG qui a été validé. Avant, il y avait une sorte un peu de laxisme. C'est l'armée qui garde l'entrée des camps, en fait. Et eux, ils vérifient pas si tu veux, si t'as l'air un peu d'une ONG officielle, ils te laissent rentrer. Et là, maintenant, c'est super surveillé. Donc, en fait, il y a très, très peu d'ONG qui ont accès. Et pour des groupes qui seraient pas officiels, qui seraient pas des ONG, il y a quasiment pas de possibilité, en fait.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des camps qui étaient des plus ou moins centres ouverts qui se sont transformés en camps fermés, gardés par l'armée, mais déjà en temps normal. qui sont coupés du reste du monde, quoi.
Ouais. Ah bah là, ici, c'est vraiment la situation dans absolument tous les camps. Avec la différence que les centres de détention, les gens sont enfermés à l'intérieur, dans les containers. Ils peuvent même plus sortir dans le camp.
Ah ouais, ok. Donc, ils sont dans des espèces de préfabriqués. Ça, c'est les... Donc, tu parles des camps dont on parlait juste avant, qui étaient des camps ouverts, qui sont devenus des centres...
Non.
Ok. Tu parles des centres qui sont, en temps normal, des centres de détention, quoi.
En fait, quand je parlais dans ce qui s'organisait, dans la solidarité à partir d'Athènes, les camps qui sont proches d'Athènes, qui sont des camps de réfugiés, qui sont gérés par... c'est l'ONU, en général, qui étaient les camps. Du coup, tu avais un accès possible, mais limité, et maintenant, il n'est plus possible. Et donc, pour continuer à approvisionner et apporter de l'aide, ça devient les différentes collègues qui pouvaient chacune avoir accès au camp avant, maintenant doivent trouver un canal d'approvisionnement qui, généralement, c'est des ONG qui sont autorisées, quoi.
Et vous avez des nouvelles depuis l'intérieur des camps, de comment ça se passe ?
Mais je pense que pour donner des nouvelles de ce qui se passe dans les centres de détention et les camps, ce serait peut-être pas mal quand même que je réexplique un peu la situation, un peu même avant le coronavirus, parce qu'en fait, du fait qu'il y a eu la frontière avec la Turquie qui a été fermée, ça a déjà changé la situation avant, et il y a un peu cette accumulation en fait de durcissement qui, avec le virus, a vraiment fini de mettre les gens dans des situations dangereuses, quoi. Donc, au début du mois de mars, il y a eu le président turc qui a décidé de faire pression sur l'Union européenne et a envoyé des milliers de réfugiés syriens vers l'Europe et donc vers la frontière grecque en leur disant de partir, et ils ont été violentés, brutalisés du côté turc pour être poussés à partir. Et donc, il y a des milliers de gens qui se sont retrouvés à la frontière avec la Grèce qui a fermé. Du coup, en faisant aussi pression sur l'Union européenne en disant « Ah non, mais nous, on n'est pas capable d'accueillir autant de monde, c'est l'Europe qui doit intervenir, on ferme en attendant de recevoir plein de thunes ». En gros, tout le monde veut de la thune, parce que c'est ce que veut la Turquie et la Grèce aussi. Et la frontière a été fermée avec, en plus de ça, le gouvernement grec qui a annoncé que plus aucune demande d'asile ne sera acceptée. Ça, c'est complètement, je sais plus si on dit illégal ou anti...
Ouais, c'est illégal. C'est illégal au regard du droit européen.
Voilà, illégal. Donc, ils ont annoncé ça en disant que ce serait pour un mois, mais ça a déjà été repoussé. On est déjà au-delà du mois, c'est jusqu'au mois de mai maintenant, au moins. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rentrées et qui n'avaient pas déjà leur procédure lancée se sont retrouvées immédiatement prisonniers. Donc, ils pouvaient pas faire leurs demandes et du coup, ils pouvaient pas avoir accès aux camps ouverts qui sont ceux des personnes en attente. Et donc, ils ont été tout de suite envoyés en centre de détention. Et donc, il y a des milliers de personnes qui sont maintenues de manière illégale dans des centres de détention où ils sont maintenant bloqués sans savoir du tout quelle va être la suite administrative de leur parcours. Avec évidemment beaucoup de violence et d'humiliation de la part des flics, parce que il y a eu énormément d'images et de témoignages qui sont passés ces semaines-là, avec des petits bateaux qui arrivent sur la plage, qui se font repousser par les gardes-côtes, menacés avec des coups de fusil dans l'eau. Il y a eu énormément de soulèvements locaux pour repousser l'arrivée des réfugiés. Mais ça a été complètement utilisé par le gouvernement grec. Ils n'ont pas arrêté de dire que les locaux en avaient marre de voir des réfugiés, en disant que c'était les locaux qui manifestaient contre eux. Et ça, c'était faux, parce que c'était pas les locaux, c'était pas les citoyens, c'était des groupes néo-nazis organisés qui sont venus là exprès pour repousser les arrivées de migrants et pour terroriser les gens. Et ça a été dans la presse. C'est vraiment assimilé aux citoyens, aux bons citoyens qui en peut plus. Et c'était vraiment pas le cas, parce qu'il y a eu des nazis de plusieurs pays en Europe qui sont venus pour monter des actions où ils ont menacé des médecins, des infirmières, des bénévoles, des militants. Ils ont cassé des voitures, ils ont surveillé les gens qui rentraient chez eux, ils ont brûlé une école. Il y a vraiment eu des actions d'intimidation, en fait, qui étaient couvertes ou en tout cas absolument pas arrêtées par les flics qui étaient sur place, c'est couvert. Et il y a eu du coup toute cette ambiance-là qui a posé le fait que les réfugiés pouvaient se faire maltraiter, pouvaient se faire violenter sans qu'il y ait aucune réaction de locale des autorités, et du coup avec incitation à la haine, quoi, au final, de peut-être d'autres citoyens que les nazis, etc. Mais par ailleurs, il y a eu plein de manifestations en soutien aux réfugiés, et il y a eu vraiment beaucoup de monde qui a participé. Donc ça, c'était le moment début mars, avec la frontière fermée, renforcement de la surveillance et les demandes d'asile qui étaient bloquées. Et suite à ça, il y a eu du coup les mesures de confinement et de distanciation et d'arrêt de tout plein d'administrations qui se sont arrêtées à cause de l'épidémie du virus. Et en fait, ça a créé dans les camps et dans les prisons et dans les centres de détention l'enfermement des gens dans leurs cellules ou dans leurs containers ou interdiction de sortir du camp. Sachant que, par exemple, à Moria, donc c'est le camp qui est sur l'île de Lesbos, qui est près de la Turquie, il y a 20 000 personnes dans le camp, alors que le camp est prévu pour 3 000. Donc, il y a un robinet pour 1 400 personnes, un robinet d'eau pour 1 400 personnes. Donc, c'est impossible d'imaginer que tu peux avoir une hygiène cohérente avec la situation, que tu peux garder tes distances, qu'au cas où il y a un problème, il n'y a absolument rien de prévu. pour l'accès voilà aux soins. Il y a beaucoup trop de monde sur l'île par rapport aux hôpitaux là-bas sur l'île. Enfin, c'est un énorme décalage. Et du coup, suite à ça, suite à la situation où les gens se sont vus enfermés sans qu'on leur dise pourquoi, avec beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'accès au téléphone, en tout cas pour les centres de détention, et pas d'accès au minimum d'hygiène et au fait de pouvoir se protéger. Et donc, il y a eu plusieurs endroits, avec l'accumulation voilà de toutes ces mesures, qui ont commencé à faire des demandes en fait aux directions de camp pour avoir des nouvelles, pour avoir accès à la santé, pour avoir plus de nourriture et de la nourriture plus comestible, parce que il y a des gens qui ont eu de la nourriture qu'ils pouvaient pas manger, et donc suite à ça ils ont fait une grève de la faim. Et donc suite à toutes ces demandes, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées par tabassage et dispersion. Et les deux grèves de la faim aussi, elles ont été réprimées avec une où les gens se sont cousus la bouche, on les a forcés, il y a eu des médecins qui sont venus pour leur découdre la bouche. Les deux grèves de la faim, les gens qui ont témoigné par rapport à ça, elles se sont fait réprimer, mais avec de la torture. Vraiment, les gens se sont fait tabasser, blesser. Il y a énormément de gens qui ont été envoyés en hôpital et puis ils ont séparé les gens pour que les témoignages soient le moins forts possible. Quoi. Il y a vraiment une espèce de mise en place... ouais, de terreur pour pas que la rébellion ou les demandes de ces personnes-là qui sont vraiment considérées comme non existantes ici en Grèce puissent avoir le moindre poids, quoi.
Et quand tu parlais de manifestations, c'était des manifestations au sein des camps alors?
Ouais, mais qui sont gérées avec des gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Il faisait encore très froid en Grèce jusqu'à il y a 2 jours et laisser les gens dehors pour la nuit, par exemple, c'est dangereux, quoi. Si t'as pas mangé et que tu t'es fait taper et que tu restes dans le froid, ils mettent les gens vraiment dans des situations de fragilisation extrême.
Et par rapport à ça, il y a un peu des réseaux de personnes, d'assos qui s'organisent autour de ça ou du fait du confinement, tout est désorganisé?
Alors, il y a une vraie différence entre avant et après le confinement. Avant le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur les îles, sur l'île de Lesbos pour manifester, pour mettre les fachos dehors aussi, pour mettre les nazis dehors. Il y en a plusieurs qui se sont fait bien taper et qui sont rentrés chez eux. Mais ça, c'était très clairement avant le confinement. Il y a eu de très grosses manifs avant le confinement en soutien aux réfugiés et pour demander que les gens soient libérés et que la frontière soit ouverte. Et ces manifestations-là qui ont commencé avant le confinement ont complètement arrêté. Et maintenant, le soutien, il se fait principalement par le partage d'informations et le soutien. C'est pour ça que moi, je t'ai contactée. Et ils ont dit, voilà, ce qui se passe là maintenant dans les camps où il y a des soulèvements qui sont coordonnés dans certaines prisons. Il y a 800 000 signataires. Il y a des grèves de la faim. Il y avait 600 personnes qui participaient. Dans la prison des femmes, maintenant c'est l'entièreté de la prison qui est en soulèvement, donc voilà, le soutien il vient d'en relayer aussi ces informations-là en Grèce et puis en dehors de la Grèce.
Et donc tu disais, il y a une pétition qui a tourné entre les prisons, c'est ça?
Ils ont fait une liste de demandes par rapport justement au fait d'avoir accès aux nouvelles, à la santé, à la nourriture, d'être moins peuplé. Et puis, principalement, la demande actuelle, c'est celle de dire, mais en fait, vous devez libérer des gens, on est surpeuplé. Et comme ce que tu disais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont vulnérables, toutes les personnes qui peuvent être libérées, en fait, ils demandent qu'ils libèrent des gens. Mais ici, en Grèce, ils ont libéré personne. Personne. Alors, ici en prison, en Grèce, il y a beaucoup de prisonniers politiques et les soulèvements sont souvent gérés en dispersant les gens. Donc, ils baladent quoi les prisonniers de prison en prison pour à chaque fois casser les soulèvements.
Et du coup, dans cette prison des femmes, alors, il y a une prison des femmes à Athènes, c'est ça?
Alors, c'est au nord d'Athènes, dans le centre de la Grèce, près d'une ville qui s'appelle Thèbes. En fait, là-bas, c'est une prison où ce sont des femmes. Et en fait, cette prison-là est dans les mêmes conditions de surpeuplement qu'ailleurs. Et en fait, il y a une femme qui est morte jeudi dans la nuit. À la suite de son décès, il y a eu un soulèvement parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette femme elle avait des problèmes respiratoires, elle avait de la fièvre et elle l'appelait à l'aide. Et en fait, la hiérarchie de la prison a refusé en fait de la sortir de la cellule et de l'amener vers un médecin. en disant que c'était beaucoup trop de bruit, qu'elle allait avoir un rapport, qu'on la croyait pas, etc. Et donc elle est morte sous les yeux de 20 autres personnes qui étaient là autour d'elle pendant toute la nuit. Suite à cette matinée-là, où après apparemment ils ont sorti le corps de la prisonnière et après ils n'ont pas eu de nouvelles, est-ce qu'elle est morte du coronavirus ou pas, ils savent pas, donc ils savent pas si... ils l'ont, et ils savent que s'ils l'ont, c'est ça qui leur les attend. Et donc, en fait, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est parce que on est prisonnier, on est condamné à mort dans cette situation-ci. Et donc, là, la demande, voilà, c'est de libérer un tiers de la population carcérale, parce que dans ce un tiers, c'est les femmes âgées, les femmes qui ont des bébés, et toutes les personnes malades. Et ça fait un tiers de la population de la prison qui demande de libérer, quoi.
Mais donc, outre la diffusion de l'information, comment est-ce qu'on peut aider les groupes qui soutiennent les personnes dans les centres fermés et les prisons?
En fait, il y a en Grèce un fonds de solidarité pour soutien aux prisonniers politiques qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui s'est mis en place après toute la période d'émeutes qui a suivi 2008 et le début de la crise. Le fonds de soutien, qui est un fonds de soutien matériel et financier, remplit son fonds d'habitude en organisant des événements type concerts, soirées, événements publics. Et en fait, là, avec un mois, deux mois de confinement, ils vont pas du tout pouvoir remplir leur caisse pour les mois à venir. Ils sont pas en train de dire que maintenant, ils peuvent pas apporter le soutien, mais à partir de l'été, si ça continue, ils savent qu'ils ne pourront pas être là pour soutenir les prisonniers. Donc, ils demandent de faire tourner l'appel en dehors de la Grèce pour demander un appel à soutien financier. Et principalement, c'est un soutien qui se fait pour payer les cautions et pour payer les avocats et faire en sorte que les prisonniers ne soient pas isolés, en fait.
Ok, là, je vois dans le mail que tu m'as envoyé qu'il faut... commencer par écrire un mail à cette caisse de solidarité. Donc le mail, c'est tameio@spif.net. Donc tameio, T-A-M-E-I-O, @espiv.net. Mais de toute façon, je le mets sur le site de Panique. Thank you.
Donc je panique, je pandémique, on est le dimanche 20 mars toujours, et il est 14h38, donc les pédaleurs sont en train de rentrer des tournées qu'ils ont fait avec les légumes. Mais il n'y a pas que des pédaleurs, il y a aussi Opération Thermos qui vient d'arriver avec Cécile,
Céline,
pardon. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette opération ?
Oui, Opération Thermos, c'est donc une association qui vient en aide aux plus démunis par des repas chauds et complets, normalement. On est là depuis 30 ans et normalement, on est à la station botanique, donc avec un repas où les plus démunis peuvent manger sur place sur des manches debout, donc c'est hyper convivial. On ne peut plus faire ça du tout, évidemment, maintenant, donc on a dû adapter et on a trouvé un autre endroit grâce à la ville de Bruxelles et à l'Interparking. On est au parking, à l'entrée du parking Albertine, rue des Sols, donc en face de la gare centrale. Okay. Et évidemment, on ne fait plus de repas sur place, puisqu'on connaît tous les mesures à prendre. Et on fait du takeaway, exactement, des sachets de vivres dans lesquels on essaie de mettre le repas le plus complet possible, et avec des petites choses amusantes dès que possible. Donc là, maintenant, je vais dans pas longtemps aller faire 120 sachets de Pâques, puisque c'est le moment. Et voilà, et on respecte toutes les mesures possibles. Dont principalement la distanciation sociale, malheureusement, ce qui n'est pas du tout dans nos principes, puisqu'on essaie généralement d'avoir un contact, mais voilà. Ils sont pour le moment 120, donc ça a démarré doucement, mais là, le bouche à oreille se passe bien. Et comme ils ont faim, enfin, les gens ont faim, puisqu'ils n'ont plus leurs endroits habituels, centre de jour, centre d'aide, tout ce à quoi on peut penser, il y en a beaucoup qui sont fermés. Voilà,
Il se passe les tuyaux.
Il se passe, voilà, et ils arrivent chez nous, entre autres.
Ok, et du coup, il existe un site internet où vous pouvez vous retrouver, comment est-ce qu'on peut vous aider ?
Alors, le site internet, on a un peu du mal à le suivre pour le moment, mais on est principalement sur Facebook.
Ok.
C'est là qu'on met la plupart de nos actions, mais de toute façon, c'est assez facile en ce qui vous concerne cette action-ci de distribution. Donc, c'est jusqu'au 30 avril, ça c'est sûr, et puis on verra selon le confinement ou pas, mais en tout cas jusqu'au 30 avril, tous les soirs à 19h au parking de l'Albertine.
Ok. Du coup, c'est peut-être aussi simple d'aller sur place pour vous rencontrer, de nouveaux bénévoles qui seraient intéressés pour vous aider.
Sinon, sur Facebook, par Messenger, sur le Facebook de la page, et on prend tous les contacts, si on veut faire des dons, de vivres, des choses comme ça, là aussi, on vous répond ce dont on a besoin, c'est principalement des choses faciles, c'est des jus, c'est de l'eau, c'est des mouchoirs, parce qu'ils ont besoin aussi, des serviettes, donc des choses hyper pratiques, quoi.
Ok. Ben, merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur comment est-ce que tu envisages l'après-confinement. Est-ce que tu l'imagines comme ce qu'on a connu avant ou est-ce que tu as des rêves qui seraient autres ?
Alors, on a plein de choses en réflexion parce qu'effectivement, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. On s'est rendu compte d'autres besoins, notamment des besoins d'information, des choses comme ça. On s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux n'étaient pas au courant exactement de ce qu'était le Covid, de comment ça se passait. On s'est rendu compte que, à partir du moment où il n'y a plus d'informations, par exemple, il n'y a plus de journal métro, que beaucoup d'entre eux lisent, ils se retrouvent sans information. Je parle d'information générale, pas seulement d'information sur le virus en lui-même. Et ça ne doit pas être que pour les plus démunis. Je parle aussi de ceux des mal logés, je parle des gens, des familles plus précarisées. Ils se retrouvent avec un manque d'information s'ils n'ont pas, comme les autres, Internet et accès aux sites d'information. Là, il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait peut-être faire, qu'on pourrait envisager, des choses à mettre en place. Il y a évidemment le manque d'hygiène qui est encore plus criant que d'habitude. Voilà, je pense qu'il faut effectivement changer beaucoup de choses, penser à d'autres choses. Il n'y a pas que l'alimentaire. Que l'alimentaire, je pense qu'on a réussi à mettre des choses en place. Il faudra les mettre en place, continuer à les mettre en place de cette façon, donc de manière plus forte. Mais il y a d'autres choses auxquelles penser. Donc oui, il faudra changer les choses encore plus.
Ok, merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver sur FB,
Opération
Thermos. Et je vois que tu as même un super sticker sur ta voiture qui te permet de passer les barrages, c'est ce que tu disais.
Oui, on a effectivement l'autorisation à partir du moment où on fait de l'aide aux plus précarisés, c'est autorisé dans les mesures du gouvernement.
Voilà. Bon, et ben merci beaucoup. Bon dimanche
de
Pâques.
Voilà, bonne journée à tous.
À bientôt.
Merci.
je panique, je pandémique, avec du jus qui est en train de se presser derrière nous, chez Apus, les cocottes volantes. Et on peut dire ton prénom ?
Oui.
Donc c'est Joanne.
Joanne.
Comment tu t'es retrouvée aujourd'hui ici ?
Donc moi, je me suis retrouvée ici chez Apus parce qu'une amie m'a mis en relation avec Axel, qui coordonne les coursiers pour l'action. Je sais pas, elle, un jour je disais oh, j'ai envie de me rendre utile, et elle m'a dit ok, j'ai 2-3 filons pour toi, et du coup voilà, elle m'a rajouté dans une mailing list. Un jour j'ai reçu un mail, si vous êtes dans cette mailing list, c'est que vous êtes intéressé, est-ce que vous êtes disponible dimanche? Et elle en répond oui, non, et si on répond oui, on reçoit un dispatch exactement. Et voilà, je suis arrivée un peu en touriste parce que j'ai pas trop pigé comment s'ouvrir la feuille du dispatch. Bref, tout le monde est bienveillant, on m'a expliqué comment fonctionne l'histoire. Et voilà, après c'est comme ça que je suis arrivée, j'ai une amie.
Et du coup, t'es venue avec ton vélo, tes sacoches?
Ouais, donc je suis arrivée avec mon vélo, des sacoches. C'est quand même plus pratique si c'est un vélo cargo, mais ne sachant pas cela, on se débrouille quand même avec des sacoches, il n'y a pas de problème.
Ça fait plusieurs allers-retours.
Ouais, un aller-retour. Même j'ai livré dans une zone assez restreinte.
Ah, ok.
Non, Saint-Gilles et forêt. Donc, c'était pas trop épuisant. Et puis, il fait magnifique.
Cool. Ouais. Et j'ai vu que sur ton vélo, il y avait les déchaînés. Tu veux nous en dire un mot ou...
Oui, ben, je fais partie du collectif des déchaînés, qui est un collectif féministe qui milite pour un espace public moins sexiste. Ce qu'on fait, c'est une ride par mois, le troisième vendredi du mois.
Ouais.
Et on fait des ateliers mécaniques en mixité choisie, donc 126, le troisième jeudi du mois. On a fait aussi quelques projections comme événement. L'idée, c'est de permettre aux femmes de se retrouver à vélo, de se réapproprier la rue. Dans un espace safe.
Ça fait un peu moins d'un an que ça existe, ou
oui.
Je me trompe?
Non, c'est ça. Donc, je crois que c'est en juin que le collectif a été créé. Moi, j'ai rejoint un peu plus tard. Donc, ça fera bientôt un an.
Bientôt
oui.
L'anniversaire.
Bientôt l'anniversaire.
Pour le déconfinement.
Oui, et on espère qu'on pourra rouler encore en groupe. Ça nous manque un peu. Ouais.
Okay.
Mais c'est pas via elle que je suis.
Non, mais c'est l'autocollant est. Et marquant, donc c'est pour ça que je t'interpelle sur ça.
Yes.
Du coup, pour contacter les déchaînés, il y a une page Facebook ou un site internet ou...
On est joignable sur Facebook.
Ok.
On a une page web aussi, mais globalement, les contacts se font via Facebook encore pour l'instant. Voilà. C'est un collectif, comme principalement tous les collectifs fonctionnent de manière horizontale, donc. La fréquence de réponse est variable.
Très bien.
Enfin, on répond tout le temps, mais pas toujours aussi rapidement qu'on souhaiterait. Mais voilà, on est tout à fait joignable et il ne faut pas hésiter à nous contacter, surtout maintenant, en période de confinement, sur toute question.
C'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'est pas solidaire.
Voilà, tout à fait. Oui, c'est sûr.
Eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bon après-midi, bon lundi de Pâques.
Merci, à toi aussi.
Avec nos petits œufs qu'on a reçus.
Et ouais, on a de la chance.
Eh, on a déjà mangé 3, moi.
Oula. J'oublie pas dans ta poche.
Non, ils sont dans le vélo. Bon, je t'embrasse, à bientôt sur les déchaînés. Peut-être à Cyclopérativa, on verra bien.
Ah j'espère bien. Bisous, bisous.
Salut.
Voilà.
Je panique, je pandémique. Sixième interview. On est toujours le dimanche de Pâques. Voici les compotes qui arrivent avec Jérémy. Elle n'a pas pu les prendre dans sa première tournée parce qu'elles étaient trop chaudes pour rentrer dans des contenants et dans le vélo. Donc maintenant je suis avec Martha.
Oui.
La première question c'est comment est-ce que tu t'es retrouvé ici aujourd'hui?
J'ai un de mes conseillers, James, qui sur le groupe, je travaille dans un studio en vélo en tout cas. Pas moi, je me retrouve responsable d'une équipe de gars qui au quotidien sont sur les vélos, un vélo cargo,
les coursiers
sur Urbike. Ouais. Et donc, bon, je vois des petits points de blague sur l'écran. Je suis au quotidien à essayer de gérer les soucis, mais je ne peux pas trop rouler parce que je suis pas mal occupé. Et un des coursiers de James avait relayé cette recherche-là, l'opportunité. Moi, je me suis inscrit en disant, ouais, c'est un dimanche, là, je ne bosse pas et je pourrais peut-être rouler. Et voilà, ouais, ce que j'ai fait aujourd'hui.
C'est ce que tu as fait. Tu es arrivé avec un magnifique vélo. C'est quelle marque, ça?
C'est un Trio Bike. C'est une marque danoise. C'est leur version big, donc c'est grand cargo, c'est le plateau est super grand en tout cas. Donc, je pense presque un mètre. Ça m'a testé le matos aussi, j'ai le petit week-end.
Et tu avais même des caisses isothermes.
Ouais.
Que tu n'as pas utilisé parce que c'est pas. C'est, en fait, les petites caisses de légumes qu'on distribue sont un peu trop petites ou trop grandes pour
non,
rentrer.
Non, je savais juste en fait pas. Donc, ouais. Ce que je dis, j'ai eu Charlotte au téléphone et on a un peu parlé. Moi, j'ai des solutions au hangar que je proposais. Et donc, j'ai pris les caisses peut-être les sapins, c'était pas spécialement efficace pour l'aller. Peut-être qu'au retour rempli avec les sacs, ce serait peut-être plus facile pour un éventuel trajet, mais
peut-être que ce sera le dernier voyage qui est amené vers en fait, le destinataire final.
Ouais, peut-être, ouais.
On verra bien comment ça se passe les prochaines semaines.
Ouais.
Et du coup, ta journée, comment ça s'est passé?
Mais très bien, il fait magnifique pour le moment, donc c'est quand même un plaisir d'avoir l'excuse de pouvoir sortir. Puis comme j'avais beaucoup beaucoup de boulot avec Urbike pour le moment, mais je suis pas beaucoup confiné au quotidien. Enfin, je confine dans un hangar et j'évite plus de contact aussi de là-bas, mais au final, je suis un peu chez moi. Et donc les week-ends dans mon petit appart, c'est un peu long. Donc ici, opportunité de trouver une bonne excuse pour sortir, me retrouver sur le vélo.
Du coup, t'as eu des surprises, des bonnes rencontres ou des choses qui te sont apparues dans cette journée qui était...
Ouais, d'office, quoi. Le premier stop, je me suis arrêté, je m'arrête, je suis accueilli par un pastel de nata, une petite pâtisserie.
Allez, un petit cabaret.
Encore tout chaud, c'était juste, c'est dimanche, c'était top. Puis je suis passé par hasard chez des potes, j'ai récupéré une caisse de masque, c'est un peu par hasard, mais du coup, j'ai eu un petit minute de dialogue avec des potes à travers une fenêtre, et puis, donc oui, même chose, petit carotte cake, enfin banane cake, cadeau pour Charlotte avec mon petit cadeau à moi aussi en partant, c'est l'après-midi, très chouette aussi,
bien.
Très cool ce dimanche.
T'as reçu tes œufs
au
chocolat?
J'ai goûté un œuf ce matin, même chose, pas dégueu du tout, très bon, donc plaisir aussi.
Dernière question, sauf si tu veux rajouter ce que tu veux, évidemment, une dédicace, n'importe quoi, mais... Comment est-ce que tu envisages, est-ce que tu as des rêves pour ce qui sera après le confinement, la société belge ou en général?
Ouais, l'espoir, rêve, ouais. J'en dois toujours un peu rappeler par là. Est-ce que ça va vraiment. Ouais, j'aimerais bien que comme on est tous, enfin, en tout cas, l'économie en général est un peu plus à l'arrêt qu'on prenne le temps de se dire comment est-ce qu'on redémarre, quoi. Est-ce que justement, prendre. Mais ouais. En même temps, il y a le crime qui est en train de passer et nous, on n'est pas là parce que c'est le bordel politique. Et il y a plein de choses qui avancent sans la Belgique en général et sans. Et j'ai un peu peur que ça reprenne justement encore plus en mode ah, fuck, fuck, on a des retards, c'est reparti. Et j'espère que ce genre d'élan solidaire comme ce dimanche fasse que les ancrages et ce retour
plus de conscience
restent clairement. Moi, au quotidien, je me retrouve à bosser encore plus et à rentrer plus de gens, à mettre plus de gens sur les vélos. Donc, j'espère que ça aura le boulot derrière et que, même chose, les entreprises et partenaires ne seront pas derrière. Hop, on revient à calculer et à dire les voitures coûtent moins cher. Donc, je ne sais pas trop. Mais ouais, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui à rouler. Je ne serais pas
cool.
À me lever tous les matins et à bosser. Donc, ouais, ça marche.
Pas bien. Bah, merci, Martin.
Merci à toi.
On verra le lien de ce podcast qui passe sur Radio Panique, Radio Pandémique. Un bisou, bon dimanche, peut-être à bientôt.
Salut.